Audiolib présente
Le silence et la colère
de Pierre Lemaître, lu par l'auteur.
Avec la participation de Françoise Cadol. À Perrine Marguen, avec mon affection, à Pascaline. Chacun fait dans la pièce à peu près ce qu'il doit. Beaumarchais, préface au mariage de Figaro. Février 1952, première partie. Chapitre 1, chacun avait ses raisons. Dans la famille, dès le début février, la perspective du pèlerinage Pelletier occupait tous les esprits, ceux des parents qui souhaitaient maintenir la tradition comme ceux des enfants qui, chaque année, tentaient d'y échapper. Cette cérémonie commémorait le premier dimanche de mars la fondation à Beyrouth de ce que Louis Pelletier continuait d'appeler la savonnerie familiale qui n'était en réalité que la sienne. La famille devait se rendre en cortège rue de la Marseillaise, en face des entrepôts de la douane, faire le tour de la fabrique, puis revenir déjeuner avenue des Français après une étape pour l'apéritif au café des Colonnes. Manque plus que le dépôt d'une gerbe et la sonnerie aux morts, disait parfois François. Son père tenait beaucoup à cette célébration qui incarnait, selon lui, l'esprit Pelletier, personne ne savait de quoi il s'agissait exactement, et dont l'organisation l'occupait pendant des mois. Angèle, son épouse, se demandait toujours en quoi pouvait consister la préparation d'un événement qui n'avait pas connu de variante depuis plus de 30 ans. « Tu ne peux pas comprendre », répondait son mari. Angèle comprenait très bien. Cette commémoration traduisait l'ardente aspiration de son époux au rôle de patriarche. Il avait de tout temps essayé de fabriquer des traditions familiales avec de petites circonstances et n'avait jamais eu la main heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque les enfants vivaient encore à la maison, ses propositions d'un conseil de famille semestriel, puis d'un voyage annuel aux ruines de Balbec et même, plus modeste, de sortie dominicale au Gaumont Palace, avaient toutes rapidement capoté. Aussi s'accrochait-il avec l'énergie du désespoir à cet anniversaire de la savonnerie, allant jusqu'à payer le voyage de ses enfants qui tous, maintenant, habitaient Paris. La mort d'Étienne, le plus jeune fils, 4 ans plus tôt, avait jeté un voile de tristesse sur les réunions familiales et menacé ce sacro-saint pèlerinage, mais M. Pelletier avait voulu y voir une raison supplémentaire de le maintenir en mémoire d'Étienne, qui, soit dit en passant, s'en était foutu comme de l'an 40, mais dans ce domaine, M. Pelletier faisait feu de tout bois. Angèle était loin d'y attacher la même importance, mais elle le soutenait parce que les occasions étaient rares de rassembler ses enfants autour d'elle. « Faites plaisir à votre père », leur écrivait-elle chaque année, tout le monde comprenait que c'était d'elle qu'elle parlait. Ainsi, pris en étau entre l'obstination de leur père et la discrète insistance de leur mère, les enfants, Jean, François et Hélène, même s'ils s'ingéniaient à imaginer toutes sortes de prétextes, ne résistaient que pour la forme. Ce qui, dès février, les chagrinait, était moins cette corvée annuelle de se rendre à Beyrouth que l'obligation pénible de devoir encore, à leur âge, obéir à une injonction paternelle. Cette année, chacun avait ses raisons pour tenter une nouvelle fois de se soustraire à cette obligation. Hélène avait la hantise d'une trahison, Jean l'angoisse d'une faillite, François, lui, ne vivait plus depuis que Nine avait disparu. Son patron l'avait chargé d'une expertise en Normandie. Partie mardi matin, elle devait rentrer ce vendredi. Personne au train la veille au soir, aucun message. À son hôtel, on assurait qu'elle avait quitté l'établissement en fin d'après-midi avec sa valise. Depuis, plus de nouvelles. François était resté sur le quai